Ça va, c'est bien d'être de retour. Hein. Je suis content de voir vos visages. Hein. Il y a Huguette qui sourit, c'est magnifique. Hein. Et donc, surtout un grand merci à tous ceux qui ont participé à maintenir les cultes ici. Et je pense que ça s'est bien passé. Et vraiment un grand merci à tout le monde, les gens qui ont apporté une parole, un témoignage, c'est vraiment la vie de l'Église. Et je vois que chacun a son importance. Nous avons tous nos talents, nos dons, et c'est fantastique. Et donc, c'est un grand encouragement pour nous, en tout cas, de voir que l'Église, elle est vivante. Hein, et peut-être... Voilà. Oui, oh, peut-être, hein, j'ai mangé, je ne sais pas ce que j'ai mangé pendant les vacances. Hein, et donc, c'est comme Colette disait ce matin, on peut remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait hein, pendant l'été. Et moi, je vois la diversité de Dieu. Et même dans ma vie, je vois incroyablement de diversité. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. On ne peut pas mettre Dieu ni dans une boîte théologique, voilà, il n'est que comme ça. Et on voit qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte ni dans la culture, il y a une diversité énorme. Même nous, il faut qu'on se regarde ce matin, il y a une diversité énorme. Et moi j'ai vu ça dans la création, quelquefois il y a les mers, quelquefois il y a les montagnes, on voit les arbres, avec des couleurs vertes tellement différentes, variées. Et donc Dieu est un Dieu de variation, de diversité. Et même avec le temps, hein, quelquefois il fait beau, et quelquefois il pleut, quelquefois il vente. Hein. Je pense qu'il y avait pas mal de pluie au Pays de Galles quand nous étions là. Mais avec le soleil de temps en temps. Et un jour j'ai dit, voilà, je suis en vacances, il faut que je nage quand même. Hein. Pour que je sois dans la mer. Mais il faisait froid quand même. Et de loin, quand je m'approchais de la plage, je voyais les gens, je voyais les têtes dans l'eau. Je dis, mais quand même, il y avait les femmes, les grands-mères, les hommes. Je dis, mais quand même, c'est le défi. Je ne peux pas laisser ces gens-là. Et moi, je suis là dans mon kawé. Parce qu'on portait les kawés. Et donc là, dans un petit coin, j'ai mis mon maillot. Et voilà, comme un grand avec mon maillot, je suis allé dans la mer. Oh, il faisait froid, c'était glacial. Oh, j'ai nagé. Et j'ai vu ces gens, je dis, mais comment est-ce qu'ils font? Ils souriaient comme s'il n'y avait rien. Et après, ils sortaient, ils portaient tous des combinaisons que je ne voyais pas. Ils étaient couverts avec des combinaisons. Et moi, j'étais comme un naïf. Et là, quand je sors de la mer, j'étais là bleu, et comme un petit. Dans mes speedos, je n'avais pas beaucoup de protection. Hein. Alors j'ai compris, hein, avant d'aller dans la mer, il faut mettre une bonne combinaison. Hein. Donc il faut regarder, il faut discerner. Hein. Il faut discerner hein, quand c'est le bon temps, comment il faut s'habiller et tout ça. Et aussi, j'ai vu la diversité d'expériences, parce qu'on a passé 2 jours, les derniers week-ends, j'étais à Londres et j'ai prêché dans mon église anglicane. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de prêtre. Et donc là, c'est comme dans l'église catholique ici, il faut faire la liturgie, il faut faire les symboles des apôtres et tout ça. Et donc là, j'étais censé faire tout ça, hein, faire la bénédiction. Heureusement, il n'y avait pas l'Eucharistie, parce que là, ça aurait été un peu difficile. Mais quand même, j'ai fait tout, hein, et c'était bien, j'étais vraiment comme le révérend Robert Rive, et à la fin, je vais bénir. Waouh, j'ai vraiment avec les vitrailles derrière, les vitraux derrière et toute la panoplie des églises historiques. Donc je faisais ça et après j'ai visité la grande cathédrale anglicane Saint-Paul. C'est magnifique. Hein. On voit que une beauté. Mais ce qui était beau, c'est qu'ils prêchent l'Évangile dans cet endroit. C'était vraiment magnifique. Et donc le soir, ils font ce qu'ils appellent Evensong. Je pense que ça doit être un peu comme Vespre, hein, où on chante les cantiques, les psaumes. Et donc là, on chantait avec la chorale devant. Et là, ils chantent le Magnificat de Marie. Et après, Et après, il chante le Siméon quand il dit que le Seigneur me laisse partir en paix. Alors là, un samedi, c'était quelle soirée là on faisait ça? C'était le lundi soir, non, qu'on était. Le lundi soir à Saint-Paul, ou le mardi soir à Saint-Paul, on était là. Et après, c'était le lundi soir. Et le mardi soir, c'est donc lundi soir Saint-Paul Magnifica. Et le mardi soir, c'était Mamma Mia avec Dancing Queen, avec ABBA. Parce qu'on est allé voir Mamma Mia, c'était le rêve de Myriam. Et je ne sais pas si vous avez jamais vu Mamma Mia, c'est un film. Bon, c'est pas très catholique, hein, l'histoire. Mais j'ai juste pensé, je dis, oh, mais l'autre, la soirée précédente, on chantait Magnifica. Et maintenant, je suis en train de chanter Dancing Queen. Mais bon, Dieu est là-dedans. Il y a une diversité, il y a la grâce. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ce matin? J'ai eu à cœur de partager avec vous trois paroles que le Seigneur m'a donné quand j'étais en vacances. Et donc, ça m'a beaucoup encouragé. C'était pour moi, mais c'était très personnel et ça peut vous encourager aussi. Et donc, je partage ces trois paroles dans l'espérance que ça va vous encourager aussi. Et donc, souvent, quand juste au milieu de la nuit, quelquefois, je me réveille, 3h du mat. Et après, je médite toutes les difficultés qui peuvent m'arriver dans la journée, dans l'avenir, les enfants. Alors, je pense que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et donc, j'ai vraiment prié pour ça. Et le Seigneur, il m'a donné une parole. Et donc, je vais partager ça avec vous. Et donc, c'est la première parole, hein, Ecclésiaste 11 et verset 10. Ecclésiaste 11 et 10, chapitre 11, verset 10. Et donc, bon, c'est complètement hors contexte, hein. Le contexte, c'est comment on doit vivre quand on est jeune et tout ça, hein. Et donc, verset 10 de chapitre 11 d'Ecclésiaste dit « Écarte de ton cœur le tracas ». Et donc, c'est tout simple, mais vous pouvez marquer ça. Parce que ça, j'ai médité ça, j'ai dit, voilà, écarte de ton cœur le tracas. Et en anglais, je lisais en anglais, il disait, bannis de ton cœur l'anxiété. Donc, au lieu de dire tracas, ils ont dit anxiété. Le chagrin. Et donc, ça doit être un mot, bon, en hébreu, c'est kaak. C'est un peu comme tracas, hein, le français est pas mal, kaak. Et donc le kaak, c'est l'anxiété, c'est le chagrin, c'est le tracas. Le tracas, les tracasseries de la vie. Et donc ça, c'est la première chose. Écarte de ton cœur le tracas, l'anxiété. Et donc, l'anxiété est prophétique, d'accord? Quand vous avez des soucis, quand vous vous réveillez la nuit à 3h du mat, ou très tôt, voilà, avec des problèmes, des soucis, c'est quand même prophétique, parce que l'anxiété, ça prédit l'avenir. Vous êtes en train de prédire une mauvaise conséquence. Non, mais c'est vrai, parce que l'anxiété, c'est comme on utilise cette capacité prophétique pour voir l'avenir, parce que c'est toujours ça concerne l'avenir. Ça va mal finir, ça va mal terminer, je ne vais pas arriver à payer ça, ça va aller mal. Et ça c'est la racine. Comment je peux dire ça? C'est très difficile de s'échapper de tout ça. Je ne suis pas en train de dire, voilà, c'est facile. D'accord? Parce qu'on est programmé comme ça, dans notre ADN, dans nos neurones et tout ça, l'anxiété est programmée, mais on a tous cette capacité de prévoir une conséquence négative. Et c'est ce qu'on fait pour la plupart du temps. Et c'est ça qui nous garde réveillés. La crainte qui s'installe et tout ça. Et cette anxiété, par exemple, les enfants, moi je fais ça tout le temps pour mes enfants, je prie, oh, il fait ça, ça va mal finir, c'est comme ta, 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 ta. Et je fais tout un scénario, et j'ai prophétisé le mal. Quelquefois, j'ai une bonne évidence que ça va mal finir, mais quand même, je vais au-delà de ce qui est la réalité. Et donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais est-ce que je peux utiliser ma capacité prophétique d'une autre manière? Au lieu que ma capacité prophétique soit un peu inspirée par l'anxiété, est-ce que je peux trouver une autre inspiration? Et ça, c'est la deuxième parole. Première parole, bannis le tracas, bannis l'anxiété. Mais le deuxième, choisis l'espérance. Et là, je devais rester là-dedans. C'est une sorte de discipline. Choisis l'espérance. Choisis l'espérance. Et chaque fois que j'étais en train de prophétiser par mon anxiété, j'ai dit, allez, choisis l'espérance. Parce que l'espérance est aussi prophétique, n'est-ce pas? C'est l'opposé. Parce que l'espérance est très, très prophétique. Quand tu es inspiré par l'espérance, tu prophétises quelque chose de positif, n'est-ce pas? Hein, tu vas prophétiser un bon dénouement de quelque chose. Tu espères quelque chose de bon. Et donc, il y a une lutte en nous. Il y a souvent cette lutte. Soit je suis motivé par l'anxiété, ou soit je suis motivé par l'espérance. Donc, voilà. Choisis l'espérance. Et c'est mon choix. C'est mon choix. Mais c'est une bataille. Parce qu'il y a beaucoup de propagande de l'ennemi qui dit « Choisis l'anxiété. » Mais Dieu me disait « Écarte de ton cœur l'anxiété. » Donc je dis « Mais allez, bannis l'anxiété. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je choisis l'espérance. » Et donc, l'espérance, c'est pas mal quand même, parce que on voit déjà dans 1 Corinthiens 13, 13, hein, il y a ces passages sur l'espérance. Et il dit, ces trois choses demeurent. Hein. Maintenant donc, 13, 13, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. C'est ça qui est solide. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure à jamais. Et je pense que cette parole est aussi une personne de Jésus, la foi, l'espérance, l'amour. Mais cette espérance, c'est une qualité qui demeure. Ça fait partie des choses qui forment le caractère chrétien. Et c'est une chose de dire, voilà, je suis chrétien parce que je crois. Et ça, c'est très bien. Mais cette foi doit nous transformer. Et ça prend toute une vie. Il y a les hauts, il y a les bas. Quelquefois, on arrive bien. Quelquefois, on arrive moins bien. Il y a la grâce pour tout ça, n'est-ce pas? Mais c'est bien de cultiver l'espérance. Je pense que ça, c'est un fruit de notre relation avec Jésus. Et c'est un fruit d'être rempli du Saint-Esprit. Qu'on arrive mieux par la présence du Saint-Esprit dans notre vie, de choisir l'espérance, de cultiver ça. Et cette espérance demeure, ça demeure. On peut voir Colossiens. Hein, c'est Paul qui a écrit à l'église de Colosse. Et Colossiens chapitre 1, et verset 27. Il parle de ce mystère de Christ en nous. Et après, il dit à mi-chemin de verset 27, c'est-à-dire Christ en vous, Christ en vous, l'espérance, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, l'espérance est liée et à avoir cette réalité de Christ dans nos cœurs, cette espérance. Christ, sa personne en nous, c'est un personnage d'espérance en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et donc, choisis l'espérance, choisis Christ en vous. Ne vous laissez pas dominer par le passé, les anciens chemins d'anxiété. C'est pas facile, parce que quelquefois, on a l'habitude de prendre un chemin qui est déjà bien dégagé, bien usé. Hein, mais quelquefois, c'est pas le bon chemin. Et quelquefois, il faut prendre un autre chemin. Et quand on est jeune dans la foi, ou si on a négligé la foi, il faut déblayer un peu une nouvelle habitude. Il faut retracer un chemin d'espérance dans nos cœurs. Et donc, choisis l'espérance. Choisis l'espérance. Donc, quelqu'un va me dire, c'est bien beau tout ça. Mais c'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, mais c'est bien beau, Seigneur. Choisis l'espérance et tout ça. Bannis le tracas, mais c'est un peu difficile. Et aussi, et si je choisis l'espérance, et j'ai toujours une mauvaise conséquence après, parce que j'ai choisi, voilà, j'espère que tel et tel va pas mourir d'une maladie, et après il meurt. Bof. Est-ce que c'est l'échec de l'espérance, l'échec de l'évangile, l'échec de tout ça? Quelquefois c'est un vrai défi, hein. On peut pas cacher le regard devant toutes ces difficultés réelles de la vie. Donc je me suis posé cette question. Je dis, mais je choisis l'espérance, mais quand même. Et si mon enfant, ça finit comme j'ai prévu, quand même. Et ce n'était pas ce grand changement, cette grande transformation. Donc j'ai eu ces deux paroles en vacances. Hein. Bannis le tracas, choisis l'espérance. Mais j'avais une conversation avec le Seigneur sur « mais quand même, et c'est quand même, si ça ne marche pas ». Et donc l'autre jour, quand je priais pour quel message donner, je faisais mon petit jogging dans le bois des cinq tailles, et c'est une bonne manière d'écouter Dieu, hein, de marcher dans la nature, et tout ça. Et je prie, je dis « mais Seigneur, allez, je suis toujours là ». Bon, ce n'était pas agressif, ce n'était pas avec incrédulité. J'ai dit « mais Seigneur, je sais que j'ai confiance en toi, mais quand même j'aimerais bien, il y a quelque chose qui manque ». Il y a banni le tracas, choisi l'espérance, mais si je finis juste choisi l'espérance, il faut plus. Bon, là, j'ai une troisième. Seigneur, il m'a mis une petite parole dans mon cœur. Et il m'a dit ceci, et c'est le plus important. Espère au-delà de ta réalité. Espère au-delà de ta réalité. Et là, c'est fou. Donc, bannis le tracas, choisis l'espérance et espère au-delà de ta réalité. Espère au-delà de ta réalité. Et là, j'ai ouf. J'ai mis la barre très haute, Seigneur, là. Et c'est ce qu'il nous fait. Hein. Ça nous laisse avec beaucoup à faire. Donc, comme je dis, ce n'est pas une chose facile. Mais voici juste quelques... Je vais vous donner trois choses qui peut vous aider à espérer au-delà de votre réalité. D'accord, trois choses. La première chose, bon, je donne un petit exemple. Si moi je dis, voilà, j'ai une bagnole et je n'ai pas mis de carburant dans cette voiture. D'accord, et j'ai dit, voilà, c'est vraiment toutes les voyants sont rouges. Allez, il faut remplir le réservoir. Mais moi, j'ai dit non, quand même, je vais partir en vacances. Je prends l'autoroute pour Paris avec quand je n'ai pas de d'essence. Et après 30 kilomètres, je dis, j'espère que je vais arriver au bout. Et après, je tombe en panne et je dis, je vais espérer au-delà de ma réalité. Mais d'un côté, je suis mal barré avec l'espérance. D'un côté, j'aurais dû faire le plein. D'un côté, avant de partir. Et donc, il y a quand même une sorte de faute de mon intelligence, là, dans mon espérance. Je devais faire le minimum que je pouvais faire et pas avoir une sorte d'attente irréelle sur Dieu. Et donc, quand tu dois espérer au-delà de ta réalité, la première chose, c'est d'avoir un caractère adapté à ton espérance. D'accord ? C'est d'avoir un style de vie adapté à l'espérance. De ne pas être négligent ou présomptueux et de dire, ou même de prendre l'espérance comme une sorte de bâton magique. Donc je vais vous donner un verset pour ça. Il faut voir Romains 5. Romains chapitre 5. Et il commence en parlant de la grâce, en parlant de l'évangile. Et verset à peu près la fin de verset 2, en chapitre 5 de Romains, il dit, nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, et la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Oh, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc là, quand nous lisons ça, on voit qu'il y a un lien entre une fidélité éprouvée, c'est-à-dire d'avoir un bon caractère, d'avoir un caractère qui est solide, et l'espérance. Et il parle aussi des tribulations. Notre vie est faite de tribulations. C'est pour ça qu'on se réveille à 4 heures le matin. Parce que notre vie est faite de tribulations. Il n'y a personne qui n'a pas des tribulations. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, il y a des tribulations. Quelquefois, il y a les petites tribulations. Juste les petites tribulations. Et, oh, je dois me lever, je dois m'habiller, c'est une tribulation. Prendre la douche, me brosser les dents. Il faut il y a des petits trucs, voilà. Tel et tel n'a pas fait la vaisselle. Bah, il y a les petites tribulations de la vie. Et quelquefois, il y a des grandes tribulations de la vie. Des maladies, bon, les agressions, toutes sortes de choses. Il y a des tribulations. Et donc, on a tous des tribulations. Et donc, devant la tribulation, l'anxiété, d'accord, on peut vivre bouffé par l'anxiété devant ces tribulations. Mais ces tribulations peuvent produire un autre effet. Choisis l'espérance. Choisis l'espérance. Mais ce n'est pas une espérance choisie à l'eau de rose. Il dit qu'il faut persévérer devant ces tribulations. La tribulation produit la persévérance. C'est si je dis, oh, je ne vais pas faire la plainte parce que je suis paresseux, je vais compter sur Dieu, dans une sorte d'irréalité. Ça, ce n'est pas juste. Il faut persévérer. Il faut faire ce qu'on peut faire. Dieu il ne se laisse pas trouver juste facilement, superficiellement. Il faut de la persévérance pour connaître Dieu. Et il faut crucifier la chair un peu, il faut faire l'effort, même s'il y a la grâce. C'est comme Bonhoeffer disait, la grâce n'est pas bon marché. D'un côté, il y a une crucifixion derrière cette grâce. Et il faut persévérer pour choisir l'espérance. Et il dit, quand tu persévères, la persévérance produit une fidélité éprouvée. Une fidélité éprouvée. Et en anglais encore, on traduit ça par le caractère de quelqu'un. Il a un bon caractère. Il a le fruit de l'esprit en lui. Il est sérieux, quoi. Il ne joue pas. Ce n'est pas une sorte de, voilà, je n'ai pas révisé, je n'ai rien fait, j'ai mangé le chocolat toute la journée, j'étais devant la télé. Mais j'espère que je vais réussir mes examens. D'un côté, c'est... Et quelquefois ça marche, Dieu, il est un Dieu de grâce, il est avec les bébés, il le fait, il donne de ses cadeaux, même si la fidélité n'est pas éprouvée. Mais pour nous, après 20 années, si on a une habitude de vivre comme ça, choisis l'espérance, oui, mais ce n'est pas une superstition. Il faut persévérer, espérer au-delà de la réalité, mais espérer, première chose, avec une fidélité éprouvée. Et avec un bon caractère. Et ce bon caractère, il dit, il produit l'espérance. Si vous ne forgez pas votre caractère, ça va produire l'anxiété. C'est sûr. Et je ne dis pas ça pour vous blâmer. Hein. Moi, je suis le gars le plus anxieux du monde. Donc, j'ai encore du chemin à faire. Hein, c'est... Mais j'essaie, Seigneur, aide-moi à produire cette fidélité éprouvée en moi pour que je puisse choisir naturellement cette espérance, que j'ai un caractère qui espère. Et après, l'espérance ne trompe pas. Alléluia. Si vous choisissez l'espérance, vous êtes sur un très bon chemin. Ça ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et je pense que l'espérance, ça ouvre le chemin pour toutes les autres bénédictions de Dieu. Et surtout, cette espérance d'être rempli du Saint-Esprit chaque jour et d'avoir l'amour de Dieu répandu dans notre cœur. Donc voilà, la première chose pour espérer au-delà de la réalité, de notre réalité, c'est d'avoir un bon caractère, d'avoir cette fidélité éprouvée. Deuxième chose, il faut lire 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1 et 3 à 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection. Alors, j'aime bien ces deux R, régénérés par sa résurrection. Moi, je suis un régénéré. Avant, j'étais un dégénéré, mais maintenant, je suis un régénéré. C'est super. Régénéré par la résurrection de Jésus-Christ. Il m'a sauvé. Et sa résurrection d'entre les morts, pas pour une espérance vivante. Une espérance vivante. Alléluia. Cette espérance vivante est en moi. Ça fait partie de la vie chrétienne. D'avoir une espérance vivante, d'être un peu animé par l'espérance, régénéré dans l'espérance. Donc ça, c'est le mot que je veux vous donner. La deuxième chose pour espérer au-delà de la réalité, c'est de croire à la résurrection. Vraiment, pas juste théoriquement, Jésus-Christ est sorti du tombeau, voilà, il est mort, il est sorti du tombeau. Tout le monde peut le dire et le croire un peu théoriquement. Mais de dire, moi je vis dans cette réalité de résurrection. C'est-à-dire que même si j'ai espéré que telle et telle situation change et je suis devant l'échec, soi-disant, de cette attente, que j'espère quand même, au-delà de la mort, de mon espérance, de mon rêve, j'espère au-delà de ça. J'ai dit, mais je vais continuer de croire quand même. Parce que moi, je vois que 70 ans, 80 ans, 90 ans, mais toi, tu vois l'éternité, Seigneur. Et là, mon espérance n'est jamais perdue. Et même de dire à Satan, voilà Satan, tu te moques de moi, tu penses t'as gagné, mais moi, j'espère quand même. Allez, je vais espérer, parce que mon Dieu est un Dieu qui est comme ça, pas juste comme ce que je vois maintenant. Espère au-delà de ta réalité. Parce que Satan, il veut nous miner par juste, voilà, t'as échoué là, bah, c'est fini, la foi marche pas, allez, perds ta foi. Non, mais j'espère. Et ça, c'est lié à la réalité de la résurrection. Moi, je suis un régénéré. Tout mon comportement est régénéré par la résurrection. Et la résurrection, cette réalité de résurrection, ça bannit l'anxiété. Ça vous aide, en tout cas. Hein, comme je dis, c'est un chemin. Mais pour espérer au-delà de notre réalité, il faut être rempli de cette régénération de résurrection. C'est-à-dire, voilà, parce que souvent on est programmé par la mort, la plupart de nous, humainement, notre héritage humain, c'est d'être programmé pour mourir. Et ça crée une anxiété énorme. Il faut lire Freud pour comprendre tout ça. Mais on est régénéré par la résurrection. Ça veut dire qu'on est régénéré pour espérer. Et ça, ça fait partie du cadeau, de la grâce d'être chrétien. C'est de pouvoir vivre une vie d'espérance, même d'espérer au-delà de nos réalités, parce qu'il y a un Christ ressuscité. Alléluia. Et donc, régénéré par la résurrection pour une espérance vivante. Et après, cette espérance en nous, C'est pas juste théorique, c'est quelque chose qui vit en nous. C'est quand nous respirons l'espérance. Il y a les gens qui respirent l'anxiété. Mais on peut respirer, et surtout quand on voit à la télé actuellement, on a de quoi être anxieux. On est tout le temps. Tout le temps, tous les médias, c'est pour nous donner l'anxiété. C'est sûr. Et c'est pour ça qu'on doit être un peu régénéré par Jésus-Christ, par cette espérance. Et donc, résurrection. Mais il y a un autre mot là. Il dit, une espérance vivante, pour un héritage, verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Réservé dans les cieux. C'est quand j'étais en vacances, on était très déçus une fois parce qu'on voulait aller dans un resto, et les meilleures places vers la fenêtre avec la belle vue et tout ça, il y avait une petite truc sur la table, réservé. Ah. Et alors, ta place, il y a un truc près des toilettes. Tu vois, c'est... Mais quand même, je suis resté là et le gars, il dit, oh, mais oh, il dit, vous pouvez le prendre. Ah, j'étais content d'avoir ma place réservée. Et c'est ce qu'il dit ici. Quand vous êtes en Jésus-Christ, vous avez une place réservée dans le ciel. C'est ce qu'il dit ici. Vous avez un héritage qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se souiller, qui ne peut pas être flétri, qui est réservé pour vous. Jésus a dit, je vais préparer une place pour vous. Et ça, quelle source d'espérance. C'est vrai, c'est la troisième chose qui nous aide à espérer au-delà de notre réalité. C'est de voir notre héritage, c'est le mot que je donne, hein, notre héritage réservé dans le ciel. C'est vrai que souvent j'aime bien vivre la victoire déjà du royaume. Mais ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours possible. Et quand je suis vaincu dans le déjà, je suis victorieux dans le pas encore. Parce que je sais que ma victoire est réservée. Je sais que ma guérison, je sais que ma victoire totale en Jésus est réservée dans le ciel. Et que mon héritage, cette place réservée, ne va pas être corrompue, souillée, salie par l'ennemi. Il y a une place de victoire. Et donc je peux avoir cette espérance à cause de mon héritage, à cause de cette foi que j'ai dans l'héritage. Et même verset 6, si je médite ça, Pierre y dit, vous en tressaillez d'allégresse. C'est vrai, c'est une source de joie, c'est d'espérance. Derrière l'espérance, il y a la joie, il y a la foi. Il dit, vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves. Et ça, c'est souvent notre réalité. Il y a quelquefois toujours des tribulations. Mais Seigneur, cette fidélité éprouvée. Seigneur, je saisis l'espérance parce que j'ai une résurrection, j'ai une espérance de résurrection en toi et j'ai un héritage dans le ciel. Et ça, c'est les choses qui nous aident. Et donc, le caractère, la résurrection, régénérée par la résurrection et notre héritage céleste. Ces trois choses qui nous aident à espérer au-delà de la réalité. Et pour terminer, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous savez Napoléon, hein, c'est un bon français Napoléon. Hein. Oh non, c'est les Corses, hein, bon français. Ouais. Ah ouais, bon, pardon, hein, j'ai marché au lait. Et donc, vous savez ce qu'il a dit sur l'espérance? Peut-être quelqu'un sait, Jacques, il va savoir peut-être. Il dit, un chef est un marchand d'espérance. Si vous voulez être un leader, un chef est un marchand d'espérance. Un marchand d'espérance. Hein, et en anglais, on dit a dealer in hope. C'est tous les gens, ils citent Napoléon en Angleterre. On ne cesse pas de citer Napoléon en Angleterre, pas en France. Un chef est un marchand d'espérance. Et je pense que si on veut avoir de l'autorité, il faut être un dispenseur d'espérance. Il faut... Parce que Comme je dis, dans les médias autour de nous, il y a les gens qui dispensent l'anxiété. Et ça a une prophétie négative sur nous. On prédit, bon, la fin du monde, les guerres, la fin. Mais l'espérance de la gloire, Christ. Et j'espère meilleur. J'espère pour ma famille, mes enfants. J'espère pour mon église. J'espère pour mon pays. J'espère pour... Espérance. Et si les chrétiens n'ont pas de l'espérance, qui aura de l'espérance? Parce que notre espérance n'est pas une théorie, c'est une personne. Et mieux que Napoléon, il y a l'apôtre Jean. Et en Apocalypse, quel livre d'espérance! Quel livre d'espérance! Et surtout quand nous lisons vers la fin, Apocalypse 21, 1 à 5. Si vous êtes dans l'anxiété, si vous êtes dans le découragement, prenez le temps de lire l'espérance qui nous attend, notre héritage qui est là, cette place réservée. Voilà, ça c'est votre place. Apocalypse chapitre 21. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et donc, plus de vacances. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Ça, c'est nous, hein, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. » Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Alléluia. Notre espérance, notre héritage. Et ça, c'est une espérance au-delà, au-delà, quelquefois, de notre réalité. Mais je suis aussi un homme pour déjà. Et je dis, Seigneur, autant que c'est possible, fais venir ce monde à venir dans mon quotidien. Fais venir des gouttelettes de miracles que je puisse transformer quand même certaines situations. Pas d'une manière bornée, ça, je dois toujours voir des guérisons, je dois toujours... Non, je ne vais pas tomber dans ce piège. Mais quand même, il y a déjà cette espérance de gloire. Il y a déjà un potentiel de transformer, déjà cette possibilité de vivre dans l'espérance. Et c'est vrai, quand je me réveille maintenant à 4 heures du matin, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Bannis le tracas. J'ai dit ça, allez, fais un effort, bannis le tracas. Je choisis l'espérance, Christ en moi, l'espérance de gloire. Et j'espère, au-delà de ma réalité, fidélité éprouvée, régénérée par la résurrection, et un héritage dans le ciel, qui est éternel, qui ne va pas se flétrir. Et donc, que le Seigneur vous remplisse pour la rentrée et pour cette nouvelle année d'espérance. Amen.